ラジオオカピ
オカピオカピセービス、ジョディ・ダニエル・カシャマ。
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment interconnecter économiquement les provinces de la République démocratique du Congo? Professeur Jean Desdieux Minengou, coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique et le développement durable, est notre invité ce matin. Professeur Jean Desdieux, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, la radio de la paix.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Pour participer à ce programme, composez les 099-706-99-41. 099-706-99-41. Comment faire face à la vie chère? Ce sera notre deuxième sujet du jour. On en parle avec Jean-René Kibao, secrétaire général de l'Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo. On aura également un autre intervenant, il s'agit de Didier Mbangala, coach en éducation financière. Voilà, ainsi présenté le menu de l'émission de ces jours. Pour participer, n'hésitez pas d'appeler au 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Jean-Claude Siala à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Mon ton son, notre votre l'heure.
Le français parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05 sur Radio Okapi.
Parlons français, le français parlons-en.
Le français parlons-en, un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler correctement le français.
Parlons français. Le français parlons-en.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous allons parler aujourd'hui de l'interconnexion, comment interconnecter économiquement les provinces de la RDC. Vous savez, les provinces de notre pays ne sont pas reliées les unes des autres. Cette situation a des incidences sur la mobilité des personnes et de leurs biens. Elle occasionne des blocs économiques qui ne profitent presque pas à l'économie nationale et à la population congolaise, selon les experts. Un sac de riz de 20 kilos vendu à Kinshasa et se négocie à $25, presque le double à Kananga, au Kasaï central, province située à une heure de vol de Kinshasa. Alors, un kilo de saucisses vendu à $5 à Goma, au Nord Kivu, revient à $10 à Kinshasa. Voilà. Mais pour certains observateurs estiment que si les différentes provinces étaient interconnectées, ça aurait une incidence sur le coût des prix, des denrées, des premières nécessités. Et on en parle avec notre invité, le professeur Jean-Didier Minengou, qui est le coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique et le développement durable. Professeur, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette émission. Alors, quand on parle de l'interconnexion économique, qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Bon, l'interconnexion économique, merci d'abord pour l'invitation. Nous pouvons appeler ça un terme très simple, l'intégration économique des provinces de la République démocratique du Congo.
Okay.
Donc le processus par lequel les provinces peuvent être reliées pour faciliter les échanges économiques.
Mmh.
Alors, quand on observe minutieusement les provinces de la République démocratique du Congo de façon globale, on a l'impression que ce sont des îlots isolés qui ne sont pas connectés des autres provinces. Je donne un exemple. Quand vous êtes à Goma, économiquement, il n'y a pas d'échange entre le Nord Kivu et la province de la Tchoupe. la chenille qui est produite à Congo a du mal à se retrouver dans les marchés, par exemple, Bunagana, Rutshuru, et c'est pratiquement
mais ça
impossible.
Va arriver là-bas comment ouais.
Ça ne peut pas arriver. Donc, il n'y a pas l'interconnexion des provinces. On n'a pas créé un marché, un bloc économique national qui pouvait faciliter les échanges commerciaux entre les différentes provinces, amorcer le progrès et le développement tant attendu de notre peuple.
Mais là, j'imagine que cela passe par les routes.
Très bien, on va aborder. Mais la situation est plus grave encore par rapport à la partie que nous appelons le Kivu. Donc avant le découpage de 1986, le Kivu, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maniema, le Sud et le Nord Kivu. Et c'est cette région dont nous voulons parler. Une région extrêmement riche. Sur le plan agricole, quand on voit d'abord les terres qui sont là, vous avez des terres volcaniques qui sont très favorables à la production agricole. Vous avez le climat, un climat doux qui peut faciliter en même temps le culture tropicale et certaines cultures tempérées. Sur le plan environnemental, cette région, c'est là où il y a une biodiversité exceptionnelle, les meilleurs parcs d'abord, je peux dire, de l'Afrique ou de la République démocratique, on se trouve là, vous avez le parc de Maïko, vous avez le parc de Kawisibiega, vous avez le parc de Virunga. Donc la meilleure biodiversité, la biodiversité exceptionnelle, c'est dans cette région. Et quand on voit ce qui concerne les ressources stratégiques qui sont à la base même de la guerre, de l'instabilité dans la région, vous avez les coltans, vous avez l'or. Vous avez...
Donc tout c'est une région. Là, se trouve là-bas.
Mais malheureusement, en fait, cette région extrêmement riche en ressources, qui pouvait amorcer le développement socio-économique de la République démocratique du Congo, n'est pas connectée des autres provinces de la RDC. Ce qui veut dire, par exemple, même si on exploitait les coltans de façon responsable, ça prend quelle route pour arriver à Goma. Aujourd'hui, vous avez par exemple la banane ou la pomme de terre qui est produite à Goma ou Nord Kivu. Comment ça peut arriver à Kisangani? Comment ça peut arriver au niveau de Mbandaka? Comment ça peut arriver à Kananga, à Kikwit et puis finalement atteindre Kinshasa? C'est pratiquement impossible.
Aujourd'hui, c'est par la voie aérienne.
Oui, mais il y a combien d'avions qui peuvent être capables d'assurer les transports de gros tonnages de produits d'une province à une autre. Il y en a combien? Si déjà pour arriver à Lubumbashi, il faut passer par Nairobi, soit il faut passer par d'autres pays pour arriver finalement à Lubumbashi ou pour arriver à Goma. Donc les problèmes est finalement réel. D'où le vice-premier ministre, le ministre des Transports, il a du pain sur la planche. Il a énormément du boulot à faire dans ces secteurs. Donc les provinces ne sont pas reliés. Et le Kivu, qui est vraiment la région la plus peut-être d'Afrique, n'appartient plus depuis plusieurs années, depuis les années 1990, n'appartient plus au bloc économique de la République démocratique du Congo. Mais le Kivu appartient sur le plan administratif, sur le plan politique à la RDC, mais sur le plan économique, le Kivu appartient à ce qu'on appelle le bloc économique des pays de l'Afrique de l'Est. Et ça veut dire que tout ce qu'il y a comme échange économique, échange commerciaux entre les Kivu, ce n'est pas avec les restes de la République démocratique du Congo.
C'est plutôt avec les pays
du Rwanda. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya,
la Tanzanie et autres.
Donc voilà. Donc économiquement, cette richesse économique ne profite plus à la République démocratique du Congo. Faute de ce que vous avez appelé interconnexion, faute de ce que nous pouvons appeler l'intégration économique des provinces de la République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, la RDC a adhéré à la zone de libre-échange continentale, la ZELECAF. Mais, à l'interne du pays, l'intégration n'existe pas.
Ce qui veut dire, zone de libre-échange.
Au niveau continental, on a adhéré à ça.
Oui.
Mais comment on peut participer de façon efficace et responsabilité à la zone de libre-échange continentale pendant qu'à l'intérieur, l'interconnexion n'existe pas.
N'existe pas.
L'intégration économique est absente. Les provinces, comme je l'ai dit, fonctionnent comme des îlots isolés, chacune de sa manière, avec ses potentialités.
Mais avec ça, on ne peut pas être compétitif sur le marché.
C'est pratiquement impossible. D'abord, à ce qui concerne la zone de libre-échange continentale, qu'est-ce que le Congo va mettre sur le marché africain?
Il faut produire.
Il faut produire, mais quel produit aussi?
Quel produit?
Il faut la qualité des produits.
C'est pas un instant, professeur. Il y a déjà trois auditeurs qui vous suivent et qui sont intéressés, qui veulent poser des questions.
Oui,
Crispin Moulumba de Lubumbashi, Ismaël aussi est à Lubumbashi et Yves Mouyaya nous appelle de Kinshasa. Crispin Moulumba, bonjour. Quelle est votre question? Bonjour Crispin, vous êtes à Lubumbashi et quelle est votre question? Bien, on va prendre Ismaël Mupoy de Lubumbashi, toujours Ismaël. Bonjour Ismaël.
Bonjour Bonjour, bonjour Jody, bonjour à tout le monde.
Merci de réduire le volume de votre radio, vous allez suivre à
partir
de votre...
Oui, je suis très content pour la pertinence de ces sujets. Oui, je suis en train de le faire.
D'accord, quelle est votre question?
Je pense que ce qui se passe pour relancer notre économie, la première difficulté, c'est que le progrès majeur pouvait être les routes. À force que nous n'avons pas de routes, on pouvait avoir assainir les voies fluviales dans notre pays. Parce que j'ai fait un petit constat, les riz que cultivaient par exemple à Kachobwe, Pueto et consorts là, ces riz-là ne peuvent pas venir ici à Lubumbashi facilement. Il se peut que ces riz peut traverser du côté de la Zambie pour revenir en RDC. Aussi, ces riz-là arrivent, on les considère comme du riz de la Tanzanie, pourtant, c'est
ça
produit
vient de...
localement.
Oui.
Bon, je pense que ce dont on pouvait faire, c'est parmi les objectifs du développement, on pouvait penser d'abord à aménager ou à construire des routes. Ça, c'est la première chose. Pourquoi les choses que nous pouvons manger ici localement deviennent comme un produit importé? Parce que nous n'avons pas des voies qui peuvent nous amener ces choses-là facilement dans des grands centres-villes. Nous avons aussi un grand problème aussi, tel que vous avez dit, les sucres qui est vendu, les cervelas qui est vendu à $5 à Goma, à Kinshasa, c'est $10 par kilo. Bon, le problème est simple. Vous voyez aussi des compagnies aériennes. Nous n'avons pas.
Même Ismaël, si Ismaël, dites-nous, est-ce que
qu'on multiplie ou qu'on attire ces gens-là,
oui,
vers ces transports.
Ismaël, est-ce que aujourd'hui,
à un petit nombre, bon, c'est chacun doit fixer les prix à sa manière. C'est ça, c'est qui cause un peu à ce qu'il y ait un peu une hausse des prix par rapport aux endroits, à d'autres endroits.
Merci beaucoup Ismaël.
Je pense que c'est qu'on pouvait les voies fluviales, je pense que c'est vide.
Bien, on va donner la parole à Crispin Moulumba de Lubumbashi. Bonjour Crispin. Crispin, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Il n'est pas là. Yves Mouyaya de Kinshasa, bonjour. Yves, bonjour. Voilà, il y a quelques soucis avec les auditeurs. Bon,
bonjour.
Voilà, c'est Yves. Quelle est votre question?
Bonjour. Bonjour la radio.
Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je vous capte maintenant. Bon, en tout cas, je salue la pertinence de votre... Je salue la pertinence de votre sujet aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment salutaire. Dans la mesure où... l'interconnexion de provinces va pouvoir faciliter la circulation de biens et services sur l'ensemble du territoire, créer un marché intérieur et donc participer à faire en sorte que les produits puissent circuler facilement et que la consommation soit aussi de coûts réduits. Et c'est vraiment salutaire dans la mesure où aujourd'hui les provinces ne sont pas, il n'y a pas de route dans notre pays. Donc, si on arrivait à créer un marché intérieur, ça va faciliter la circulation des biens et services, de sorte que on puisse diminuer aussi le prix de biens sur le marché intérieur. Voilà ce que je voulais dire.
Merci Yves de Kinshasa. Professeur Jean de Dieu Miningo.
Merci Jody. Vous voyez que le sujet est très intéressant. Il y a des interventions très pertinentes. Avant de répondre à cette question, je voudrais relever un élément. Je dis, quand vous voyez l'architecture du gouvernement depuis 2006-2010, si je ne me trompe pas, nous avons un ministère qui s'occupe de ce qu'on appelle l'intégration régionale. Quel est ce ministère qui s'occupe de l'intégration nationale? C'est depuis 2010 qu'on est dans cette histoire. Donc, logiquement, nous sommes préoccupés par l'intégration régionale. Mais l'intégration nationale ne nous préoccupe pas. Comment vous allez participer à la zone de libre-échange continentale pendant que chez vous, il n'y a pas d'infrastructure pour faciliter cette zone de libre-échange? Donc, il y a des efforts à fournir, comme l'a dit notre ami Israël. Il faut les routes, il faut les voies fluviales, mais il faut également les chemins de fer. Nous sommes dans ce qu'on appelle...
Mais la SNCC, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui?
Mais bien sûr, nous avions beaucoup travaillé avec la SNCC et tout ça, et les structures qui s'occupent d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. La SNCC est ce qu'elle est. Aujourd'hui, elle est très malade. Tout comme la régie des voies fluviales, elle est malade.
Oui.
Donc, il nous faut une thérapie de choc pour sortir de ces entretiens. Donc, notre ami Israël, nous sommes d'accord avec lui pour assurer l'intégration économique des provinces de la République démocratique. Il faut des infrastructures qui facilitent la circulation des personnes et de leurs biens. Et parmi ces infrastructures, bien sûr, vous avez les routes. Mais là où les routes ne sont pas faciles à construire, on utilise les voies d'eau navigables. Il y a des endroits dans la province, par exemple, dans l'ancienne province de l'Équateur, où on ne peut pas y accéder par route. On doit utiliser la voie fluviale. Mmh. Mais nous avons aussi les chemins de fer, où on a près de 5000 km, mais qui se trouvent dans quel état? Dans un état défectueux et dépassé, dans un état où cette route ne répond plus même aux normes internationales, aux standards internationaux.
Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une route, par exemple, qui quitte le Nord Kivu jusqu'à Kinshasa? Et c'est possible d'avoir une route comme
bien ça? Sûr, bien sûr. À l'époque, vous pouvez quitter jusque là, parce qu'il y a, déjà, il y avait une route qui va quitter Kisangani jusqu'en Mbandaka. Et Mbandaka, Kinshasa, il y a la route. De Kisangani au Nord Kivu, soit à Goma, la route existe. Mais ça, c'est pas dans
Mbandaka,
cet état.
Kinshasa,
il y avait des routes de connexion qui passent de Kisangani jusqu'en Mbandaka. Mbandaka, Kinshasa, la route existe, mais il faut la refaire. La route a existé, mais il faut la refaire.
Donc, Kinshasa, Lubumbashi aussi.
Mais la route existe, Kinshasa, Lubumbashi, la route existait. Quand on était enfant, on voyait des véhicules qui quittaient de la Chekamine, qui quittaient Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Donc la route existait. Donc notre ami a pleinement raison. Il faut refaire ces infrastructures.
Parce qu'aujourd'hui, il y a trois autres auditeurs qui veulent participer. Thomas, vous êtes à Bounia, Justin à Kasumbalesa et Crispin à Lubumbashi. Thomas, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire rapidement?
Bonjour monsieur Jody, et bonjour à l'invité ainsi que à tous les auditeurs de la radio Okapi. Moi, je pense que les problèmes ce problème-là se pose dans notre pays. C'est aussi à la base de ça qu'il y a parfois la hausse des prix des denrées alimentaires. Parce que lorsque les provinces ne sont pas reliées, vous voyez, ça pose un sérieux problème. Parce que on peut produire, mais pour que les produits quittent Kinshasa pour l'Ituri ici, ça demande l'avion. Parce que par route, il n'y a pas moyen, on n'a même pas de trains pour amener les choses, on n'a pas de route. Je pense que le problème de reliage des provinces, ça va contribuer énormément à la baisse d'abord des prix des denrées alimentaires, parce que lorsque les commerçants achètent les produits de l'extérieur ou de l'autre province, là, les transports, tout ça, ça pèse sur les marchands, ça pèse plus sur nous, la population, lorsqu'on veut acheter, parce que le commerçant veut gagner quelque chose, dépasser ce qu'il a dépassé au niveau de la douane, ainsi que partout là, pour à ce qui concerne les transports. Mais, par exemple, pour nous, le cas de l'Ituri, je pense, c'est bien le problème de reliage des provinces, mais chez nous, par exemple, on est à la sécurité. Ça peut bloquer ce processus-là, parce que tant qu'il y a les sécurités, vous voyez que ça ne peut pas marcher. Ici à Bounia, par exemple, ça va. Maintenant, si vous venez à Bounia, partout la route est asphaltée, ici au centre-ville de la Bounia, c'est parce que pourquoi? C'est parce que quand même il y a de la sécurité. Mais aller à Ndjougou, certains coins là où il y a de la sécurité, il n'y a même pas moyen de réhabiliter les routes ou des provinces parce que il y a les sécurités. Je pense ce problème-là de la sécurité, quand même dans d'autres provinces là où il n'y a pas de la sécurité, mais nous demandons pourquoi ça tarde à venir. Par exemple, pour nous, on connaît qu'à l'Ituri, Nord Kivu, c'est la guerre.
Mais d'accord. Merci beaucoup, Thomas.
Il n'y a pas de la sécurité.
D'accord.
Qu'est-ce qui bloquerait ce processus-là?
Merci sinon, bien. Merci beaucoup. On va donner la parole à Justin Koulou de Kasumbalesa. Bonjour, Justin. Quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jody. Je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question, Justin?
Ma question est de savoir que fait l'État avec des migrations, des déplacements en masse, les gens qui quittent les villages pour aller surpeupler les centres-villes. Ce sont ces gens-là qui devraient s'occuper de la production pour baisser et lutter contre les hausses des prix des denrées alimentaires ou soit les produits de première nécessité. Mais ils quittent là où ils devaient faire les champs pour aller s'entasser en ville où les femmes vont commencer à laver les habits de gens, vont commencer à faire les toilettes pour manger ce qui provient de la Zambie ici au Katanga. Mais on abandonne les propres champs, on abandonne les terres arables pour aller jocoler en ville. Qu'est-ce que l'État sur ce point-là?
Merci Justin. Crispin Moulumba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Dodi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Quelle est votre question par rapport à l'interconnexion ou l'intégration des provinces?
En tout cas, merci. Merci pour m'avoir choisi pour intervenir dans cette émission. Mais sinon, vraiment, le ciel d'aujourd'hui vraiment est tellement utile. Moi, je voulais savoir, je voulais tout simplement vous demander, le problème n'est pas au niveau de la population. Comme je dis aujourd'hui, ce n'est pas le prix qui est plus long, mais plutôt c'est la corde. Notre État, la République du Congo, donc l'État doit nécessairement prendre en charge. Pourquoi? Parce que imaginez-vous un peu, par exemple, la province de Kasaï centrale, précisément à Karanga. Je vous dis, ici, il y a une province qui produit les maïs. Aujourd'hui, les maïs, c'est un produit vraiment de première nécessité. Parce que sans maïs, actuellement, ça fait débat. Même dans des,
rapidement, quelle dans est votre question? Passez à la question rapidement, Crispin. Quelle est la question?
Bon, ma question est celle de savoir. Je voudrais peut-être demander vraiment à notre invité. Qu'est-ce que l'État a déjà mis en œuvre? Parce que le système où il y a des projets de 145 territoires, jusqu'à, bon, on ne sait pas si ça évolue ou pas.
Merci, routes, merci Crispin. Elvis, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Merci beaucoup. Elvis, bonjour.
Bonjour, monsieur Lajebi.
Quelle est votre question?
Bon, la question, peut-être, je voulais d'abord parler, c'est que je m'ai invité en train de parler. Je pense que le ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, déjà, il comprend déjà les niveaux, les situations qui doivent aussi évoluer. D'abord, premièrement, il faut d'abord savoir ici que d'abord les échanges nationaux, c'est-à-dire quoi, entre les provinces seulement, si les provinces, entre les provinces et déjà un peu désenclaver cette situation. Peut-être que vous avez aussi suivi les j'ai suivi l'invité qui est celui qui a parlé avant moi. Il avait dit qu'il y a il y a certains points où les produits des propres nécessités c'est détruit là. Même peut-être que pour les faire sortir, les vols de sortie ne sont pas si nombreux à part l'avion. Alors que tout le monde n'a pas les moyens pour s'assumer les transports de l'avion ou de la voie maritime. Et on n'a pas le pas sur la voie routière où les routes sont tellement dérangés.
Délabré.
Alors la question que je voulais poser, oui. Délabré. La question que je voulais poser à l'invité. Alors, est-ce que parce que j'avais suivi ces marques dans la radio Capi avec la suspension de l'aviation nationale Congo Airways. Est-ce que ces services sont déjà repris? Est-ce que ces services là, est-ce qu'ils étaient reliés à toutes les provinces? Parce que moi, par exemple, chez nous, dans la province de Sankou, peut-être. À part Gomez et peut-être il y a ces marques vols. Les vols qui se font par semaine. Par
d'accord. Merci beaucoup Elvis. On a compris votre préoccupation. Jean de Dieu Minengo.
Merci beaucoup. Je salue tous les intervenants pour la qualité de leurs préoccupations. Et je pense qu'on peut commencer par notre ami Elvis. Il parle des difficultés qu'on a pour l'évacuation des produits avec des avions et autres. Je crois que pour un développement économique des responsabilités, on ne peut pas compter sur quelques avions qu'on peut trouver à l'aéroport d'Ndjili. Il faut miser sur les routes, il faut miser sur les voies fluviales, il faut miser sur les chemins de fer. Mmh. C'est là où le gros tonnage des produits passe. C'est pourquoi aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle les transports multimodal interconnectés. Et c'est important pour la République. Alors, l'Air Congo, vous-même, vous savez qu'il n'y a plus. Je ne sais pas si on appelle ça Air Congo ou c'est rentré encore au Congo Airways. Je ne sais plus.
Parce que donc, tous les appareils sont foutus.
Tous les appareils sont foutus. Même si les deux ou les trois appareils étaient en bon état, je ne vois pas Air Congo faciliter l'intégration économique de la République démocratique du Congo. Donc, il y a des efforts à fournir en termes de construction
d'infrastructures routières, l'aménagement et l'entretien des voies d'eau navigables, on en a près de 25 000, mais aussi remettre en état les 5 000 qui existent des kilomètres des chemins de fer en République démocratique du Congo. Il y a notre ami Crispin, je crois qu'il a appelé de Lubumbashi,
qui parle de 145 territoires.
Oui, ça c'est le projet, je ne sais pas s'il est clos ou il continue.
Il prévoit aussi la construction des routes.
On avait prévu l'entretien et l'aménagement des routes. Je crois que ceux qui gèrent les projets savent à quel niveau on se retrouve par rapport à cette question. Mais les routes devraient être la priorité à ce qui concerne les projets des 145 territoires. Pourquoi? Parce que aujourd'hui les routes créent de la richesse, créent de l'argent. Ça ne sert à rien d'aller construire une école qui ne va amener aucun développement dans la région. Mais la route peut aider à construire les écoles, la route peut aider à construire les dispensaires, la route peut aider à relever le niveau de vie des gens. Donc, je crois que c'était prévu dans le cadre du programme local des 145 territoires et ceux qui gèrent le projet nous donneront au moment opportun et l'état des lieux de tout ce qui a été prévu et de tout ce qui a été fait sur le terrain.
Pour interconnecter la RDC, il faut combien de routes nationales, par exemple? Oui. Est-ce qu'on a une idée?
Mais bien sûr, écoutez, vous êtes au niveau de Goma. De Goma jusqu'à Kisangani, c'est plus de 600 kilomètres. C'est plus de 600 kilomètres. Je crois qu'on peut construire. Si on prend que le coût d'un kilomètre de route, c'est un million de dollars. Je pense qu'on ne manque pas 600 millions. Et il y a quelque chose qui était très intéressant que notre ami a parlé. Il a parlé de l'insécurité. Comment construire les routes là où il y a l'insécurité? Oui, mais pourquoi il y a d'abord l'insécurité là? Parmi les causes de l'insécurité, c'est le délabrement des routes. Le fait que beaucoup d'endroits sont enclavés, ça profite aux criminels, ça profite aux groupes armés de s'installer dans la région. C'est le cas, par exemple, également du Kivu. Il n'y a pas de route. Notre ami a dit ici, on peut produire la pomme de terre au niveau de la plaine de la Ruzizi. Ça va soit au Rwanda, on met ça dans les sachets.
Et puis ça revient.
Et c'est quoi? Parce que nous n'avons pas d'infrastructures. Les routes sont en mauvais état. On peut quitter Bukavu directement jusqu'à Goma. Mais on ne sait pas les faire en route, par route. Et l'insécurité, il faut le dire aujourd'hui, est favorisé aussi par l'enclavement. Vous êtes par exemple au niveau de Mongata, Bandunuville. Mais l'insécurité dans la région a été sérieusement favorisée par l'état délabré de la route.
Parce que les Mobondo.
Oui, mais si cette route était asphaltée, je ne pense pas que les Mobondo pouvaient résister. Parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés même pour déployer les forces de l'ordre dans la région. La route n'est pas bonne. Comment les forces de l'ordre vont arriver là où il n'y a pas de route, là où il n'y a pratiquement rien? Donc, je crois que l'intégration économique de la République, qui passe nécessairement par la construction des infrastructures, l'aménagement et l'entretien des voies d'eau navigables de la République et le chemin de fer, devrait aider normalement le pays à assurer la sécurité des personnes de leurs biens. Parce que d'ici Kinshasa, Matadi, Kinshasa qui quitte, c'est difficile que les groupes armés se développent parce que la route est en bon état et les forces de sécurité peuvent se déployer en tout moment et en n'importe quelle heure.
Bien, on va accueillir Sylvain qui nous appelle de Mahagi en Ituri. Bonjour Sylvain.
Bonjour, aujourd'hui, je salue aussi l'invité. Merci.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'intégration économique des provinces de la République?
Bien, je pense qu'il faudrait rentrer vers avoir l'indépendance. Hein. Vous avez vu comment est-ce que les colonisateurs avaient mis l'attention particulière à la construction des infrastructures routières. Il ne faut pas oublier que le Congo est très vaste. Mais moi je me dis, quand vous voyez les programmes de Joseph Kabila à l'époque, je pense qu'il faut partir par là. À l'époque, Joseph Kabila et le Vital Kamerhe, ils ont présenté un programme qui devait permettre à ce que le Congo soit...
Allô?
Tel qu'on a été fait.
Oui, allez-y.
Oui. Vous vous souvenez, à un moment donné, dans ce programme de Joseph Kabila, la Banque mondiale avait financé presque à 80% ces projets de construction de routes pour que les provinces soient interconnectées. Mais l'argent était détourné. Alors,
Bon, je pense qu'il y a un souci. Oui, allez-y, passez rapidement à la question les autres attendent.
Oui, en fait, moi, je n'avais pas une question aujourd'hui, mais plutôt, moi, je voudrais faire une analyse pour que peut-être l'invité nous dise quoi. Donc, je disais que dans ces pays, on a y a mis beaucoup de fonds, et surtout la Banque mondiale. Mais on n'a toujours pas de route. Et alors, quand vous voyez les programmes du président Félix, routière, mais rien ne s'est fait. Moi, je me pose la question, est-ce que les Congolais, surtout les dirigeants, a une mentalité de la prédation, ou que les gens ne voient pas l'importance de ces programmes-là. Voyez-vous ce que l'invité dit? Si vous étiez chez nous en Ituri, nous sommes dans une période de l'état de siège où l'armée est dans une opération très 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 dense, mais des fois incapable de se déplacer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Aussi, les autorités n'utilisent pas les routes. Est-ce qu'ils ont vraiment un regard sur ces chantiers-là?
D'accord. Merci beaucoup, Sylvain, depuis Mahagui. On va donner la parole à Godé Kidiongo de Kikwit. Nous parlons de l'intégration économique des provinces et de la République. Comment interconnecter les provinces de la République démocratique du Congo? Godé Kidiongo de Kikwit, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à l'invité. Vraiment, le problème de l'interconnexion des provinces, c'est très capital. Si nous avons vraiment dans notre pays, il n'y a même pas les connexions, l'interconnexion donc des provinces. C'est à quoi? Je vais d'abord suggérer quelques mots, quelques suggestions. À l'époque coloniale, vers les années 1800, les marchés faisaient que les tipo-tipo, les ngongolutete et les exportateurs là, ils faisaient des marchés là. Ils proviennent de l'Europe jusqu'en Afrique. Est-ce que notre gouvernement ne peut pas faire donc un marché national par province? Ils utilisent un avion. À l'époque du Zaïre, le président Mobutu, nous avons vu l'avion autonome qui faisait des transports. Le marché donc national aujourd'hui d'abord le mois à Ituri, le mois prochain à Bakongo, pour que moi, comme je suis là, les chemises qui sortent dans la province du Kwilu, les gens disent les chemises, puisqu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'il n'y a pas moyen, le gouvernement peut faire des marchés nationaux par province, par mois. Il met en place un avion autonome avec un fil valable. Par un commerçant.
Bien.
Les transports quittent de province à province. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ce trafic-là faisait des tipo-tipo à l'époque coloniale?
Merci.
Voilà ma préoccupation.
Merci, Godé Kidiongo. Bien. Professeur Jean de Dieu Minengo, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Merci beaucoup. Jody, le sujet est très intéressant. Je commence par notre ami Sylvain qui est en Ituri. Alors, Sylvain dit. L'État met beaucoup d'argent pour la construction de routes. À la fin, il n'y a plus de routes, il n'y a plus rien. Il dit, à l'époque coloniale, c'était un exemple très très intéressant, les colonisateurs avaient mis beaucoup d'efforts pour la construction des infrastructures. Alors, à ce qui concerne les fonds mis par l'État pour la construction de routes, il faut faire la part des choses. Si ce sont les routes en terre battue, nous sommes en région tropicale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aménager et entretenir une route en terre.
Avec les pluies, tout
après
ça.
Avec les pluies battantes qui existent dans la région. Le lendemain, il n'y a plus rien. Et surtout, qu'après l'entretien, on ne met pas en place un mécanisme régulier et durable qui devrait faire le suivi.
C'est pourquoi. Il y a un fonds d'entretien des routes.
Oui, mais c'est pourquoi je vous donne un exemple. J'ai participé à un débat à l'université Kinshasa où la Banque africaine avait financé la réhabilitation de routes dans la province du Congo à hauteur de 250 millions de dollars. Mais pourquoi les 250 millions, vous ne construisez pas directement 250 kilomètres de routes en dur? Les pays gagneraient. Parce qu'aujourd'hui,
c'était pour les terres,
c'était
pour
des routes
en terre battue.
En terre battue. Donc, les 250 millions sont partis. Je crois qu'au bout de... Dès qu'on a fini le travail, après 4 mois...
Les pluies
ravagent tout et puis on revient à la case de départ. Cette route, par exemple, Mongata-Bandundouville, à combien de fois qu'on a réhabilité ça? dans le cadre du projet des 100 jours, on a réhabilité. Est-ce que cette route est encore opérationnelle? Non. Mais le paie des ressources. Si on avait investi pour construire ne fût-ce que 20 km de route, enduire route asphaltée, ça existerait. On pourrait finalement avancer. Quand vous êtes sur la route nationale qui quitte Tchikapa pour arriver à Gungu, vous êtes au kilomètre 622. Ça vous fait 37 km. Mais vous pouvez passer toute une journée pour arriver à Gungu. Donc la situation est tellement catastrophique. Mais malgré tout ça, il y a, dans le cadre du programme des 145 territoires, une entreprise qui a été entrée en réhabilité. Juste dès que l'entreprise termine aujourd'hui à remblayer, la pluie vient, elle fait partir tout ce qu'il y a.
Les érosions, tout ça.
Et on rentre à la case de départ. Donc oui. Le plus important, et là où il ne faut pas investir beaucoup d'argent à ce qui concerne les routes en terre, il faut carrément asphalter. Parce que si vous voyez, les ressources que l'État a mobilisées pour les routes en terre battues, ça nous aiderait peut-être à relier.
Même la route, qui doit relier, par exemple, Tchikapa à Kananga, en passant par Kamwesha, tout ça.
Il faut asphalter ça, tout simplement.
Mais ça a pris du temps.
Ça ne sert à rien, aujourd'hui, de débourser des millions pour des routes en terre.
La route Kalamba,
ça ne sert à rien.
Kalamba Mbuji, jusqu'aujourd'hui, qui doit relier, par exemple, la province du Kasaï central à l'Angola. C'est depuis des années qu'on en parle.
Il faut asphalter, ça ne sert, parce que, si vous mettez beaucoup d'argent, c'est une route d'intérêt national. Si vous mettez beaucoup de ressources pour une route en terre battue, elle n'a pas une durée de vie.
Non, ces routes-là doivent être absolument asphaltées.
Il faut les asphalter. Si l'État n'a pas beaucoup de ressources, le plus important, si vous avez 10 millions, vous faites 10 kilomètres, vous vous arrêtez. Les jours qu'on aura encore 10 millions, on avance jusqu'à ce qu'on a une route qui va de Kalamambouche jusqu'à Angola.
Mais si l'enveloppe globale est 10 millions, mais il y a quelque part des coupes.
Il n'y a pas de coupes
qui se font et puis l'entrepreneur se retrouve avec peu de ressources et ne sait pas faire
le travail. C'est le combat que le gouvernement est en train de mener, les détournements des publics, la corruption et tout ça, il faut, je crois que les ministres,
les marchés de gré
à gré, les marchés de gré à gré, ça il faut mettre fin, et je crois que le gouvernement y travaille sérieusement, parce que si on n'arrête pas cette hémorragie, aujourd'hui, on pourra créer plusieurs années et le pays risque de se retrouver en difficulté. Comme je l'ai dit, nous avons adhéré à la zone de libre-échange continentale, mais quelles sont les infrastructures que nous, en tant que république, nous sommes en train de construire pour faciliter l'intégration économique africaine? Je donne un exemple. Une route qui quitte le Kenya jusqu'au niveau de Goma. Et après, on fait quoi? Alors que le Kenya veut aller en Centrafrique. Les véhicules qui quittent le Kenya veulent aller en Centrafrique en passant par Goma. Mais quand on arrive à Goma, on fait quoi? On est bloqué. Il n'y a pas de route pour arriver à Kisangani, aller vers la Centrafrique. Il n'en existe pas.
Il n'y en a pas.
Ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, si nous ne prenons pas ces dossiers avec beaucoup de sérieux, le Congo risque de devenir un obstacle pour l'intégration économique africaine.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Achille de Lubumbashi et Yves-Laurent Mwamba de Kinshasa. Achille, bonjour, quelle est votre question?
Oui, bonjour. La question est celle de savoir, moi, par rapport à ce que j'avais suivi dernièrement sur votre radio, que la SICOMINE avait signé les accords. Il y a un montant de 7 milliards.
7 milliards de
qui
dollars.
Prévoyait la construction qui prévoyait la construction des routes. Où en sommes-nous à ce jour avec ce projet-là?
Bien.
J'allais aussi poser la deuxième question à votre invité. Ben, depuis le découpage de notre pays de 11 à 26 provinces, parce qu'on avait pensé qu'avec ce découpage-là, notre pays pouvait être relié. À ce jour, ben, le constat est toujours en marche. Selon lui, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque vraiment que notre pays soit vraiment relié depuis le découpage, d'une manière un peu claire et d'une manière un peu pratique? Merci et bonne journée.
Bien. Yves-Laurent Mwamba, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Yves-Laurent, vous êtes là? Bien, je pense que Yves-Laurent n'est pas là. Que Chimbalanga Obed nous a écrit des Kananga, que l'invité nous dit ce qui doit être fait ou les prérequis à appliquer pour que la dite intégration soit mise en marche par notre gouvernement. Jean Dédieu Minengo.
Merci. Je commence par les derniers intervenants. Que faire pour que l'intégration soit effective? Et je crois que pour faciliter l'intégration économique des provinces de la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'autre alternative. C'est la construction des infrastructures routières, l'aménagement des voies d'eau, navigable de la République démocratique du Congo. Et les chemins de fer, les 5000 km, il faut en construire aussi d'autres. Bien sûr, il faut ajouter aussi la voie aérienne, les aéroports qu'il faut moderniser. Mais aussi, il ne faut pas seulement construire les infrastructures, il faut mettre en place un système de production qui répond aux normes. C'est le travail. C'est ainsi que je continue toujours à le dire, que le plus grand défi pour le gouvernement actuel, c'est que c'est vrai que lorsqu'on s'embarque dans beaucoup de choses, on n'a pas de résultats. L'épée des ressources que l'État pouvait mobiliser,
il faut les affecter dans
un secteur. Il faut les affecter dans un secteur générateur de croissance.
Lesquels, par exemple ?
Les routes. Parce qu'avec la route, les niveaux, les gens, les échanges
économiques,
les échanges commerciaux se réalisent, les niveaux de vie des gens changent, l'État prélève les taxes, construit des écoles, mais là où il n'y a pas de route. Prenez un exemple. Quand j'étais étudiant, quand j'ai passé la route ici, Kinshasa, Kikwit, la route était dans un état défectueux. Mais avec la réhabilitation de cette route, il faut voir seulement la qualité de l'habitat. Ça a beaucoup changé.
Beaucoup de maisons.
Vous voyez combien de gens du Congo central qui sont la route venir s'installer à Kinshasa. Parce que notre ami a parlé de l'exode rural. Pourquoi ils ne viennent pas? Ils sont capables de vendre l'arachide, ils sont capables de vendre le manioc chez lui. Il n'a pas besoin de venir à Kin. Donc aujourd'hui, la question, comme notre ami, je pense que il y a un ami qui a parlé de l'exode rural. Oui, mais lorsque les gens produisent, vous allez à l'Équateur, les gens produisent du riz, vous êtes vers Bumba.
Il n'y a pas de route de dessert agricole.
Il ne s'est pas évacué. Vous voulez qu'il fasse quoi?
Évacuer les produits vers les centres de consommation.
Ah ben, bien sûr. Il va vers les centres de consommation. Là, il a gravi encore sa propre condition de vie parce qu'il ne s'est pas trouvé de l'emploi. Il ne se retrouve pas au bon endroit. Et finalement, c'est le nombre de criminels qui augmentent dans la ville, etc. Donc, pour réduire tant soit peu l'exode rural en République démocratique du Congo, il faut créer les meilleures conditions de vie au village. Et pour que les conditions... On ne demande pas l'État d'aller construire le village parce qu'il n'en a pas les moyens. Mais l'État, ce qu'il peut faire, c'est de mettre en place les infrastructures qui permettent à ceux qui sont dans les régions les plus reculées d'effectuer des échanges, de faire des mobilités, de vendre leurs produits. Et il n'y a pas de raison que quelqu'un qui se trouve dans de bonnes conditions chez lui, il y a un magasin, il peut venir vendre ses maniocs deux jours, il est à Kinshasa, il rentre, pourquoi il doit rester à Kinshasa? Parce qu'il ne va pas trouver du travail. Donc c'est ça le travail qu'il faut faire. Donc le plus grand défi, comme je l'ai dit, je réponds, pour le gouvernement, c'est la construction des infrastructures, l'aménagement et l'entretien des voies d'eau navigables et remettre les chemins de fer. Aujourd'hui, l'exode rural, les gens qui étaient par exemple sur l'axe Lubumbashi, il est beau. Toutes ces mamans qui vendaient des cacahuètes, qui vendaient un peu de la nourriture aux gens qui montaient sur les trains. Aujourd'hui, elles font quoi? Rien.
Le train ne passe plus.
Et le train ne s'est plus passé.
C'est fini, toutes les activités sont bloquées.
Toutes les activités socio-économiques sont bloquées, c'est la pauvreté. Et les gens qui sont dans la région, ils vont faire quoi? Ils vont migrer là où la vie, et c'est un peu de marche. Donc, je crois que ce sont ces efforts qui ne demandent pas des calculs extrêmement de construire soit des grands immeubles, mais une certaine volonté, on met en place les infrastructures. Si on a un million, on construit un kilomètre.
Et les jours un kilomètre.
On construit un kilomètre. Et on avance. Si c'est dans 10 ans, 20 ans, vous avez combien? Vous avez plus de 20 kilomètres. C'est quand même bien que de pouvoir continuer à investir sur des choses qui ne vont pas entraîner
le développement dans la région. Par exemple, vous construisez, il y a les érosions, il y a les inondations, l'eau, vous savez, c'est l'ennemi numéro un de la route. Les travaux avancent et après, il y a des érosions, il faut reprendre, c'est ça aussi.
Il faut l'entretien.
Il faut compter avec tout cela.
C'est important aujourd'hui. Je crois que dans les secteurs routiers, la République démocratique du Congo a franchi un pas important. Parce que la route, ce qui pose problème, ce n'est pas sa construction, mais c'est le fait de le maintenir. Comment maintenir la route après sa construction? Et sur ce pas, comme je l'ai dit, la RDC a franchi un pas important.
Nous avons aujourd'hui avec le FONER.
La création du FONER. Ça, c'est un pas. C'est pourquoi je dis toujours aux gens que ça, c'est un
d'entretien routier.
Un outil important de notre développement. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des problèmes d'entretien de la route Kinshasa-Matadi, on ne va pas auprès de la Banque mondiale. On ne va pas auprès du Fonds mondial. Parce que quand vous allez là-bas, les négociations peuvent prendre 5 ans.
Mais il y a le péage qui est institué, des points de péage.
Bien sûr, mais c'est pourquoi aujourd'hui vous allez quitter Kinshasa jusqu'à Matadi, la route est acceptable.
Acceptable.
Vous pouvez quitter Kinshasa qui quitte. Là, il faut que les choses marchent bien parce qu'il y a énormément beaucoup de trous, mais on prélève beaucoup d'argent.
Il y a pas de péage. Il y a beaucoup de péages.
Moi-même, si je comptabilise ce que je paye chaque semaine, c'est beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de trous sur la voie publique. On ne sait pas finalement qu'est-ce que les FONER ou les services habilités font avec l'argent. En tout cas, on paye l'argent, mais la route doit. Mais sur la route qui quitte Tchikapa, il y a beaucoup de trous. Contrairement à la route Kinshasa-Matadi. Donc, c'est comme je l'ai dit, ça c'est un pas important qu'on a franchi, mais il nous reste un deuxième pas qu'il faut franchir. C'est comment entretenir les voies d'eau navigables de la République démocratique du Congo. Comment entretenir, parce que le chemin de fer, il faut en construire, c'est déjà dépassé. C'est déjà dépassé en termes d'écartement des rails, et beaucoup de choses. Nous avons des trains de 1945
qui
sont
construits aussi à côté de
des gens ont envahi l'emprise du chemin de fer et ça fait aujourd'hui qu'il y a énormément d'efforts à fournir pour
donc
permettre
avec la SNCC, il faut remplacer tous
les moderniser. C'est les rails construits à l'époque coloniale et qui ne répondent plus aux standards internationaux. Il faut carrément refaire tout ce qu'il y a comme arsenal, mais on peut construire les rails Kinshasa-Matadi. Mais comment les maintenir dans l'état? Où est-ce que vous allez trouver l'argent? C'est ça la plus grande question. C'est ainsi que déjà un travail avait été fait pour créer ce que nous avions appelé les fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. C'est l'équivalent du FONER sur la voie routière.
Oui.
Et là, ça permettra à la République de mobiliser ses propres ressources pour entretenir les voies d'eau navigables ainsi que les chemins de fer, si on va en construire. On est obligé de les construire, sinon nous n'irons jamais vers le développement.
Les voies d'eau navigables, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'Union européenne qui finance l'entretien.
Oui, Jody, on ne peut pas se développer avec des appuis ponctuels de l'Union européenne que je salue. On ne peut pas se développer avec l'appui ponctuel de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. On se développe lorsqu'on est capable de mobiliser des ressources soi-même. Le développement, c'est pas quelqu'un qui viendra développer le Congo. Le Congo lui-même doit mettre des mécanismes de son propre développement. La Banque mondiale a financé, par exemple, les balisères multifonctions. Nous, on est allé inaugurer ça. Il y avait le président de la République, il y avait le président de l'Union européenne. Bon, après, ça va fonctionner comment? Il faut plus de, par jour, je ne sais pas, plus de 5 à 10 000 litres de carburant par jour. Bon, où est-ce que vous allez trouver ça?
Voilà, et ce que nous dit Monsieur Moïse Mapera à Lumumba, il nous a écrit, et il dit, c'est une question majeure, sur 58 000 kilomètres des routes nationales à asphalter, nous n'avons réalisé que moins de 30%.
Moins de 30%.
Sur la voie aérienne, fluviale et ferroviaire, là, c'est chaotique. Le gouvernement doit adopter une politique pour répondre à cette question de l'interconnexion de nos provinces. Par exemple, il y a le plan Marshall de Noël Tchani qui prévoit l'interconnexion par voie terrestre de toute la République, construction des routes nationales pendant une période de 10 ans. Vous avez entendu parler de ces plans Marshall?
Bien sûr.
Alors, donc, qu'est-ce que vous pouvez, votre réaction?
Oui, je crois qu'il vient de résumer encore ce qu'on était en train de dire. Pour nous développer, je dis, ça ne sert à rien de s'embarquer dans plusieurs choses. Parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources.
Mais le paix des ressources. Avec le contrat minier révisité avec la Sicomine, on aura 7 milliards de dollars par
très
an.
Bien.
C'est suffisant pour construire les routes.
Bien sûr. Donc nous estimons que le contrat avec Sicomine de 7 milliards, cet argent va être orienté vers la... Parce qu'avec 7 milliards, si vous voulez construire les routes, c'est pas moins de 7 000 kilomètres de routes. Et 7000 kilomètres de route, je crois qu'on va de Goma, Kisangani, Mbandaka, Kinshasa, et on va de Tchikapa, parce que d'ici jusqu'à Tchikapa, il y a déjà la route. On va de Tchikapa, Lubumbashi, Maniema, Sud,
Tchikapa, Kananga, et tout ça.
Je crois qu'avec 7000, toute la République, au moins,
peut être interconnectée
d'abord. Au moins, toutes les provinces peuvent être impliquées. Et ça, c'est déjà un pas important vers l'intégration
des provinces
économique et régionale. Et ça permettra aussi à la République démocratique du Congo, qui a adhéré à la zone de libre-échange continentale, de participer avec plus d'efficacité et de responsabilité à cette zone. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le chemin de fer qui va quitter, par exemple, la Tanzanie, on arrive vers Tanganyika. Et après, on fait quoi?
Bloqué.
On est bloqué. Alors qu'ils veulent que les produits qui ont quitté la Tanzanie veulent aller vers le Sud-Soudan. Ils doivent passer par où? Par la République démocratique du Congo. Mais quelles sont les infrastructures mises en place? Donc, il y a un travail important. Comme je l'ai dit, au niveau...
Mais on a les lacs Tanganyika.
Oui, mais les lacs Tanganyika, ça ne va pas vous amener au sud. Mais les gens ont besoin aussi du temps. Le timing pour le transport de produits, c'est un élément important à ce qui concerne l'activité.
Mais vous avez dit qu'il faut développer les transports multimodales.
Bien sûr, il faut développer les transports multimodales. Au niveau interne, mais ça peut permettre aussi la région ou les continents de profiter de tout cela. Alors, si nous ne développons pas ces infrastructures, je l'ai dit au début, nous risquons de devenir un obstacle pour l'intégration économique de l'Afrique. Et les dangers et les risques, c'est quoi aujourd'hui? C'est que si les gens veulent aller au Sud-Soudan, ils doivent passer par la RDC. La RDC n'a pas mis en place des infrastructures. Ils viendront construire à notre place. Ils vont le faire. Parce que les gens ne vont pas accepter pendant plusieurs années attendre que le Congo mette en place des infrastructures et laisser une carte blanche à la RDC.
On a déjà adhéré à la zone de libre-échange, donc on doit tout faire pour être compétitif sur le marché.
Nous sommes obligés de le faire. Donc, les risques, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne met pas les infrastructures, l'Ouest, déjà, nous sommes pris en charge économiquement par l'Angola. Beaucoup de produits entrent par l'Oufou, que ce soit même vers les centres, vers les Kassai. Centre par là. Parce que nous n'avons pas mis en place un système de production pour participer à la zone de libre-échange continentale. Et quand vous êtes dans la partie Est, déjà, le Kivu ne nous appartient plus économiquement. Le Kivu appartient au bloc économique des pays de l'Afrique de l'Est. Et même ça a des répercussions, tout ça, sur les sociales de la population. Les jeunes qui terminent, qui font les études, par exemple, à Bukavu, à Goma, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Kinshasa? Mais s'il y avait l'intégration économique nationale, s'il y avait les infrastructures, on peut quitter Goma, on peut dire, bon, j'ai fini mes études à Rutshuru, je vais aller étudier à l'université de Kinshasa. On vient par route, parce que les avions coûtent cher et il n'y en a même plus. Donc l'intégration économique qui passe par la construction des infrastructures va aider les pays à se développer économiquement et améliorer les conditions de vie des gens. Aujourd'hui, vous voyez les opérateurs économiques qui sont à l'Est. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'affaire qui s'est acquise? Ils ont même des comptes dans des pays étrangers. Parce que les échanges économiques ne se font pas ici entre nous, mais se font avec des opérateurs économiques, par exemple de l'Ouganda,
du Kenya et autres.
Il y a au-delà des efforts, je peux citer par là, au-delà des efforts militaires, au-delà des efforts diplomatiques, pour pacifier la région de l'Est, il faut absolument relier l'Est du Congo avec les autres provinces de la République démocratique du Congo. C'est par là que nous irons vers une paix durable dans la région. Même si aujourd'hui on gagne la guerre, même si aujourd'hui diplomatiquement on gagne ça, mais du fait que sur le plan économique la région nous échappe, les problèmes peuvent encore ressurgir à n'importe quel moment.
Bien, Jean de Dieu Minengu, avec les 7 milliards de la Sicomine par an, espérons que ça peut... ça va aider.
Je ne connais pas très bien qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais nous espérons qu'avec les 7 milliards,
parce que ça sera orienté uniquement vers
les routes. Mais il faut de toutes les façons un suivi, parce qu'on en a vu déjà de plusieurs couleurs. Il faut un suivi, il faut un contrôle rigoureux, et je crois que le gouvernement est en train d'y travailler avec les ministres de la justice, où faut-il absolument lutter contre la corruption, le détournement des deniers publics en République démocratique du Congo.
Bien, professeur Jean de Dieu Minengu, nous vous disons merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique et développement durable. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à la Radio Capi.
Et à la prochaine.
Merci.